Retour à question d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Est-ce que l'on peut recevoir un vaccin qui a été conçu à partir de lignées cellulaires, elles-mêmes dérivées d'un fœtus, lui-même avorté en 1973, il y a 47 ans, donc 48 ans. La question peut paraître byzantine et inutile, notamment dans le contexte actuel d'urgence de la campagne de vaccination contre la COVID. Mais cette question est tout de même l'occasion d'une réflexion intéressante sur l'éthique et son devoir de réserve ou d'ingérence. Je rappelle que la Conférence des évêques catholiques du Québec avait émis un propos plutôt défavorable. La classe politique s'était enflammée et l'Assemblée des évêques catholiques du Québec s'était distanciée de cette position officielle. Pour parler de tout cela, je suis en compagnie de Jean-Marc Barrault, chroniqueur à l'émission et professeur adjoint à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Jean-Marc, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe.
Est-ce qu'on va marcher sur des œufs avec vous ou pas?
Écoutez, non, pas forcément. Vous avez très bien introduit la chose. C'est un vrai sujet. Au-delà de la polémique qui a marqué les derniers jours entre la CECC et puis les évêques du Québec, c'est un vrai sujet, cette question de bioéthique et de la position de l'Église par rapport à des questions centrales. Je pense qu'il y a des matières à bioéthique. C'est pas nécessairement le cas, mais on va en parler ensemble. Et puis il y a d'autres moments où le débat est ailleurs. D'après moi, c'est là où la CECC s'est trompée.
Pour l'instant, bon, toute la lumière est concentrée sur quatre vaccins. Donc il y a le Moderna, le Pfizer, qui eux ne posent aucun problème. Mais les deux autres qui sont plus pécamineux ou litigieux au regard, dans l'œil de la Conférence des évêques catholiques du Canada, c'est AstraZeneca et Johnson & Johnson, qui utilisent des lignées cellulaires dérivées de l'avortement, donc dans le développement, la production et les essais cliniques. L'impression qu'on a, c'est qu'on a tué des fœtus il n'y a pas longtemps pour en faire des vaccins. C'est pas du tout le cas.
Alors la compagnie Johnson & Johnson assure qu'il n'y a eu aucun tissu fœtal. Hein. Elle a réagi et elle a affirmé ça. Bon, c'est évidemment à son avantage, elle ne dirait pas autre chose.
Forcément.
Mais, exactement. Mais moi, de fait, pour d'autres produits, ce genre de manipulation est opéré et ça pose des vraies questions d'ordre bioéthique. Ça, je peux pas nier la chose, c'est évident. Simplement là, un, la compagnie dit que c'est pas juste, et deux, on parle de cellules, comme vous disiez très justement, en bioéthique, on parle de cellules dérivées, mais dérivées de très long terme, à des actes d'avortement. On n'est plus dans un rapport direct à cette question-là.
Eh bien, pardonnez-moi, on rentre déjà dans le vif du sujet, Jean-Marc Barrault. Cellules dérivées ou cellules prises directement, il y a quand même un avortement quelque part. Je mets à la place de quelqu'un de la Conférence des évêques catholiques du Canada, qui s'est fait taper dessus par la classe politique et par bien des scientifiques certainement. Dès qu'il y a soupçon, dès qu'il y a réalité d'avortement, ne serait-ce qu'il y a quelques générations ou il y a des milliers de kilomètres, d'entrée de jeu, tout le processus qui découle de ces manipulations est entaché. Vous ne pensez pas ?
En éthique, en fait, on distingue les degrés de responsabilité en fonction des degrés de médiation.
Oui.
C'est-à-dire qu'effectivement, si je pose un acte direct qui va tuer mon voisin, éthiquement parlant, je suis directement responsable. Plus, d'accord, en fait, les médiations s'éloignent de l'acte, moins on est responsable. Et là, en l'occurrence, on est vraiment absolument très loin. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout en soulignant le fait qu'on est évidemment en désaccord avec ce genre de procédé s'il a eu lieu. Le deuxième point, c'est qu'on est dans une société où on est face à une pandémie et que la question que je poserai publiquement, d'ailleurs c'est ce qu'on fait grâce à vous, c'est sur quoi il faut se concentrer en termes de recherche. Moi, je suis marqué par le fait que certains vaccins éventuellement suscitent des problématiques de l'ordre de la santé parce qu'on n'a pas eu assez de recul, parce qu'ils ont été produits rapidement, etc. Ça, pour le coup, excusez-moi, mais c'est du direct. Et c'est des vraies questions éthiques. Donc moi, je me concentrerai plus là-dessus que sur quelque chose qui vraiment se définit par un nombre de médiations multiples.
Jean-Marc Barrault, juste une petite parenthèse. Vous utilisez souvent le mot éthique. Est-ce qu'il s'oppose au mot moral J'ai l'impression que quand on est religieux, on est davantage dans le moral. Vous êtes religieux, vous êtes même, vous-même, vous êtes prêtre, mais est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le mot moral et le mot éthique ?
Oui, oui, je crois. Je vais citer deux philosophes que vous aimez d'ailleurs, Jean-Philippe, c'est Ricoeur et Lévinas.
Qui sont-ils ?
Alors, c'est Ricoeur est un protestant d'origine. Oui. Qui a marqué la pensée nord-américaine, parce qu'il est venu ici, comme aux États-Unis. Oui. Et Ricoeur développe énormément cette dimension, dans ses principes éthiques, de la prise en considération d'autrui. Lévinas, d'accord, il fera la même chose, c'est pour ça que je me permets de les mettre en parallèle. Il le fera par rapport au visage, révélation de soi et du rapport à l'autre, de l'altérité. Mm-hmm. Bon. Mais vous voyez, là, on est dans des principes, c'est-à-dire l'éthique se distingue de la morale dans le sens où elle analyse et pose des principes sur des anthropologies. Ricoeur n'a pas la même vision de l'être humain que Lévinas, Corinne Pelluchon, que De Clairvaux et compagnie. La morale, ça va être l'intégration de ces principes dans la vie personnelle ou collective de la société. Mmh. Et c'est là où on devient ou non responsable de nos actes. C'est dans ce rapport aux principes en tant qu'ils sont posés.
De ce que dans l'agir. La morale concerne l'agir humain et l'éthique, c'est ce qui est en amont.
Exactement, et qui donc d'accord, relève de l'analyse et des principes. L'agir dont vous parlez, pas saint Thomas, mais Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, va parler de l'imperium. Donc c'est vraiment le passage à l'acte.
C'est ça, exactement.
Ouais.
Alors, la Conférence des évêques catholiques du Canada, on a parlé de sa position. L'Assemblée des évêques catholiques du Québec, d'abord, on n'avait pas commenté le communiqué, je crois que c'était le 9 mars dernier, mais voyant la tempête dans un bénitier, pour citer Brassens, cette Assemblée a cru bon se distancier des propos de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Parlons pas de schisme, mais il y a quand même... Ce sont deux. Voyez-vous là une divergence au point de vue éthique ou au point de vue d'une culture ?
Ah, elle est belle votre question. Oui, elle est importante surtout. Vous avez raison, parce que Mgr Lépine a pris position rapidement, donc l'archevêque de Montréal, en disant que c'était un acte de charité que de se faire vacciner. Claude Hamelin, qui est l'évêque de Saint-Jean-Longueuil, si je m'abuse, a dit carrément dans les médias qu'il était indigné. Donc il y a vraiment une distanciation entre le Québec et le fédéral.
Mais est-elle d'ordre éthique ou d'ordre culturel ?
Elle est, voilà, d'après moi, elle est les deux. Elle est vraiment les deux. Premièrement, culturelle, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, la francophonie et l'anglophonie dans ce grand pays magnifique a de l'histoire. Donc il y a un entrechoquement politique, il y a un entrechoquement culturel, ça c'est clair et je n'apprends rien à personne en disant ça. Ce qui serait intéressant, c'est de voir que les positions éthiques et morales dans le milieu anglophone sont différentes de celui francophone parce que en fait on a des philosophes et des penseurs qui sont différents. Donc forcément, nos cultures sont différentes parce qu'elles ont été construites différemment, ça c'est certain. Mais ça pourrait être un lieu de dialogue, et ce n'est pas le cas.
On sait, je remonte un petit peu en amont, donc on quitte la conférence évêque du Canada et celle du Québec. On arrive au Vatican, le pape, lui, s'est fait vacciner. Lui, il a dit, allez, faites-vous vacciner, c'est d'abord presque primum vivere dende philosophari. D'abord, on vit et ensuite on va philosopher là-dessus. Je simplifie à outrance la pensée au Vatican. Il y a quand même au Vatican, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas d'interdiction, même si on dit on préfère les vaccins qui n'ont rien à voir avec ce qui aurait pu être avorté même il y a 48 ans.
Oui, tout à fait. Moi, je considère que c'est véritablement... ce qui s'est passé, je ne le prends pas de manière anecdotique. Mgr Poisson, qui est vice-président de la CECC, a dit que c'est un communiqué un petit peu embêtant. Non, non, ce n'est pas un peu embêtant, c'est surtout très révélateur. Révélateur d'une scission entre les deux conférences, on en a parlé, mais aussi d'une posture de l'Église fédérale, enfin de l'Église canadienne, excusez-moi, oui, oui. Qui est de l'ordre de... de l'ingérence. Je ne pense pas qu'au XXIe siècle, on en soit à Humanevitae de Paul VI, si vous voulez. L'herméneutique du concile est passée par là. Le dialogue interreligieux, grâce à Dieu, commence à s'imposer. L'articulation des sciences humaines et sociales se pense autrement. On parle en transdisciplinarité de plus en plus. Et c'est ça qui fait mal au cœur, c'est que à travers cet épisode, l'Église, en tout cas celle canadienne, montre en fait qu'elle est elle est en retard. Parce qu'elle n'est pas sur les bons sujets et parce qu'elle n'utilise pas les bonnes méthodologies de réflexion, quoi. Ça fait
j'entends,
mal au cœur pour moi.
J'entends dire que la CECC, il y a beaucoup de... Les pro-vie, les gens qui... Les traditionalistes et tout ça. Enfin, c'est peut-être abusif de ma part de mettre tout ça dans le même paquet, mais il y a un raidissement. Raidissement ou pas, ma question est davantage de l'ordre de... Vous parlez de non-ingérence, mais quand on émet, quand on est... Déjà, un évêque est un pasteur, c'est littéralement un surveillant, épiscopein, n'est-ce pas? C'est un surveillant, il a charge d'âme, il regarde dans son diocèse ce qui se passe, il conseille, etc. En 2021, c'est pas mal édulcoré, mais c'est quand même une réalité. Un évêque se prend pour quelqu'un qui veut prendre soin de son troupeau. Bon, il fait sa job. Que je sois d'accord ou pas avec ce qu'il raconte, un évêque fait sa job et dit « Non, je ne suis pas d'accord en fonction de tel et tel article du droit canon ou de la tradition ou de ce que l'Église raconte. » Vous dites « Elle s'ingère comme si on était dans les années au XXe siècle avant Vatican II. » Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Elle ne peut pas dire « Amen, allez vous faire vacciner même si on a des doutes sur ce vaccin ?»
Alors, Humanevitae, c'est juste après le Concile.
Oui, c'est vrai.
Oui, mais juste une petite précision. Mais en fait, deux choses. La première, c'est qu'il y a une distinction depuis le Concile Vatican II qui est extrêmement importante, en tout cas que le Concile Vatican II a repris et entériné, c'est ad intra, ad extra. C'est-à-dire que l'évêque a autorité ad intra dans l'Église. Donc, évidemment, il a autorité sur ses agents de pastoral, sur ses agents de pastoral, sur le conseil de fabrique, sur ses prêtres. Ça, il a une autorité. Après, il faudrait réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette autorité à la lumière du Concile Vatican II. Mais ad extra...
Pardonnez-moi, ad intra, c'est...
À l'intérieur.
Dans mon territoire à moi. D'accord.
Dans les murs de l'Église, mais en périphérie, pour reprendre l'expression si chère au pape François, elle n'a pas autorité. Elle n'a pas autorité. Et c'est là où le Concile Vatican II, à travers Gaudium et Spes, qui est une constitution magnifique, va développer ce qu'elle appelle l'évangélisation du dialogue, ou aussi le dialogue interreligieux. Bon, c'est le dialogue dans différentes modalités. Mais ça change tout. Et au lieu de faire un communiqué sur cette question des vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca, peut-être qu'elle aurait pu inviter un dialogue. Peut-être qu'elle aurait pu poser des questions. La maïotique, c'est la science de Socrate qui considère qu'on enseigne plus en questionnant qu'en affirmant de manière dogmatique. Et c'est ça qui me dérange, vous voyez. Ad intra, à l'intérieur, dans les paroisses, écoutez, ça ne me dérange pas. Mais pas à l'extérieur. D'autant plus...
Pardonnez-moi, finissez votre idée.
D'autant plus, si vous voulez, d'autant plus que à l'extérieur, c'est-à-dire sur les péris, on fait face à des scientifiques qui sont costauds, qui ont réfléchi, à des institutions qui réfléchissent scientifiquement et qui ont leur point de vue sur la chose. Et l'éthique doit respecter la science, réciproquement d'ailleurs, mais on doit se respecter, on ne doit pas empiéter sur le champ de compétences de l'autre.
Mais ad intra, je veux dire, un évêque a des paroissiens qui vont se faire vacciner, c'est ad intra ça. Je veux dire, il dit à ses paroissiens qui sont membres de sa paroisse, je vous déconseille ceci. Je veux dire, si on suit votre raisonnement, l'Église n'aurait même rien à dire dans les guerres civiles, la guerre en Syrie, le pape n'aurait pas dû aller en Irak, enfin ça, tout ça c'est du ad extra.
Alors, c'est vraiment dans la manière de faire. Qu'est-ce qui fait, pourquoi un communiqué? Pourquoi un communiqué, c'est un acte d'autorité. C'est pas un acte magistériel, mais c'est quand même un acte d'autorité qui vraiment n'est plus conciliaire. Je suis désolé, on est avant le Concile Vatican II. Je crois beaucoup. Dieu sait si on peut critiquer Jean-Paul II, mais à la sortie du Concile Vatican II, il a sorti un livre qui s'appelle « Aux sources du renouveau ». Et j'avais été invité à Rome pour faire une conférence sur le contenu de cet ouvrage, qui, à bien des égards, là encore, même s'il était conservateur, mais sur ce point-là, était énormément d'actualité, où il parlait du dialogue prophétique. C'est beau comme terme, le concept de dialogue prophétique. C'est que c'est considéré que dialoguer sur, par exemple, la question sanitaire, c'est ce dont on parle aujourd'hui, dialoguer sur des questions bioéthiques, pourquoi pas l'avortement, etc., c'est prophétique. Parce que le dialogue, pour reprendre Ricoeur, il permet de partir d'autrui. Il permet de considérer l'autre, dirait Lévinas, le visage de l'autre. Alors que si je parle de manière magistérielle ou de manière par des communiqués, je ne considère pas l'autre.
Pardonnez-moi, mais il y a plein d'organismes qui émettent des communiqués. Je veux dire, le dialogue pour eux ne se pose pas. J'ai l'impression que sur les catholiques, en tout cas sur les évêques, on met une grosse charge. Ils doivent vraiment prouver qu'ils ne sont plus sales.
Écoutez, que sur les questions du magistère ordinaire et du magistère extraordinaire, le pape François et ses cardinaux et évêques fassent des prises de position magistérielles, à la limite, pourquoi pas ? Parce que ça touche des principes éthiques, voilà. extrêmement rares, et qu'ensuite, on doit, j'allais dire, digérer et vulgariser pour la société. C'est tout à fait normal. Mais pour des sujets comme ça, qui relèvent plus de la science, tout en interpellant
qui sont urgents également. Hein.
Mais l'urgence, ce n'est pas de savoir si, il y a 20 ans, ces fameuses cellules provenaient d'actes d'avortement. Le vrai sujet, c'est qu'on est dans une crise de pandémie et qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de vaccins et qui plus est que certains d'entre eux, éventuellement, causent des conséquences durables sur la santé du public.
Et on n'a pas un an pour débattre de la valeur ou non d'un vaccin. Il faut vacciner.
Il faut vacciner. Moi, j'ai travaillé en soins palliatifs avant d'avoir le poste de professeur à l'Université de Montréal. J'ai vu une institution hospitalière, une institution clinique se démanteler en quelques semaines. C'est pas un roman, ça, c'est la vérité. Donc, pour reprendre Mgr Poisson, non, c'est pas un communiqué un peu embêtant, c'est un communiqué où je pense que la communauté, la CECC devrait s'excuser.
À ce point.
Bien entendu, elle devrait s'excuser.
Dites-moi une chose, est-ce que le corps politique devrait également s'excuser parce que tout le monde a surréagi avec le même mauvais argument en disant « Mais non, contrairement à ce que les évêques racontent, c'est un vaccin extrêmement sécuritaire. » Or, ce n'était pas l'objet du communiqué. Tout le monde devrait s'excuser là-dedans, non ?
Mais écoutez, sur le plan politique, en ce qui regarde la province du Québec, sincèrement, on a fait face à des politiques qui se sont énormément engagées et qui, en fait, ont su s'adapter à la situation, je trouve, de manière assez ajustée, sans trop rentrer dans les détails politiques. Donc, je ne pense pas qu'on en soit là. Et si vous voulez, le politique, il n'est pas celui qui va poser des principes éthiques. C'est ça qui est gênant. C'est pas son objet de compétence. Il va, lui, essayer de trouver le moindre mal. C'est un terme qu'on utilise souvent. Et puis, de viser le bien commun. Ça, c'est du langage politique. Mais l'Église, là, elle a pris position sur quelque chose qui, soi-disant, relève de sa compétence. Donc ça, je suis désolé, c'est...
Effectivement. Oui. En tout cas, ça fait de sacrées bonnes discussions. Finalement, on n'a pas parlé de bioéthique. On aurait pu, si on avait eu encore du temps, mais là, on est coincé par la publicité, Jean-Marc Barrault.
Je vous en prie.
Merci beaucoup pour ces propos, ce tour d'horizon sur cette question qui a vraiment fait bouillonner beaucoup de monde sur le communiqué de la Conférence des évêques catholiques du Canada, dont s'est distanciée l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Jean-Marc Barrault, vous êtes chroniqueur et à l'émission et professeur adjoint à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. On vous redonne rendez-vous dans 2 semaines ?
Oui, sur un sujet plus printanier, on va dire.
Oui, plus agréable. Merci Jean-Marc.
À bientôt.
Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, des nouvelles économiques et le minage des bitcoins et son incidence écologique. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci, je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.